de qu'est-ce que les Lumières aujourd'hui. Le titre de la conférence est un peu prétentieux parce qu'il y a un grand philosophe qui, avant moi, a écrit un opuscule là-dessus dans les années 1780-1790. C'est le philosophe Emmanuel Kant, puisqu'il y a un opuscule qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?» Vous aurez peut-être envie d'aller voir. On le trouve en livre de poche, en dernier, Marion, je crois. Vous aurez peut-être envie d'aller voir à la suite de mon intervention. Donc je m'appuierai sur cette présentation visuelle pour que vous ayez des repères, si vous voulez, mais je broderai largement sur ce que je vous montre. Alors, je commence par quelques remarques d'introduction, c'est-à-dire surtout pour mettre les choses en perspective. Parce que les Lumières, c'est un phénomène essentiellement du XVIIIe siècle. Lorsque Kant écrit son opuscule sur Qu'est-ce que les Lumières, c'est à la fin du XVIIIe siècle, c'est lorsque les Lumières sont en train de s'éteindre, ou en tout cas de prendre une nouvelle forme, au moment de la Révolution française, avant les conquêtes de Napoléon en Europe, et avant les retours à l'ordre du XIXe siècle. Donc les Lumières, c'était quelque chose essentiellement du XVIIIe siècle, mais évidemment, ça tombe pas du ciel. C'est que déjà à la fin du XVIIe siècle, c'est un siècle que vous connaissez peut-être à travers un peu Descartes, par exemple, déjà à la fin du XVIIe siècle, il y a l'idée d'un monde qui serait éclairé. Mais ce monde n'est pas éclairé, contrairement à ce que on disait auparavant, n'est pas éclairé par la révélation divine, il n'est pas éclairé par l'écriture, il n'est pas éclairé par la religion. Il est éclairé par l'esprit, par la connaissance et par la raison. C'est-à-dire le grand message du cartésianisme au XVIIe siècle, qui est repris ensuite par Spinoza, qui est repris ensuite par Leibniz, qui est repris par beaucoup de la plupart des philosophes du XVIIe, c'est prima de la raison, prima du raisonnement, prima, comme dit Descartes, de l'ordre des raisons, les règles pour diriger son esprit. Descartes écrit un discours de la méthode qui est fondamentalement un discours rationaliste, mais il n'est pas le seul. Malebranche écrit quelque chose qui s'appelle De la recherche de la vérité. John Locke écrit un peu plus tard un long essai qui s'appelle De la conduite de l'entendement. Vous voyez que déjà le XVIIe siècle est sous le signe de la raison. Et je dirais qu'il y a deux choses qui sont très importantes pour comprendre le XVIIIe siècle, tout de suite, mais qui sont dans le XVIIe siècle, qui viennent du XVIIe siècle. C'est d'une part la philosophie, non pas de Descartes, puisque Descartes a été relativement oublié au XVIIIe siècle, mais la philosophie de l'anglais John Locke. John Locke qui a contribué, c'est quelque chose d'assez étonnant quand on étudie tous les textes du XVIIIe siècle, John Locke a contribué à former, je dirais, le langage du XVIIIe siècle. Les gens du XVIIIe siècle parlent en termes d'idées, parlent en termes de raisonnement d'idées, d'entendement, ils parlent comme John Locke. Donc c'est John Locke qui a écrit un fameux essai philosophique sur l'entendement humain en 1690, et qui avait été précédé, parce que ça ceci c'est important politiquement, de deux traités sur le gouvernement civil de 1689. 1688, c'est la seconde révolution anglaise, la glorieuse révolution, et c'est la révolution qui met sur pied, je dirais, le régime de la monarchie démocratique, la monarchie éclairée et démocratique anglaise. Donc on oublie souvent, nous en France, quand on dit révolution, nous pensons révolution française. Bon, mais il y a une révolution probablement, je dirais, plus importante que la révolution française dans ses conséquences, ça a été la révolution anglaise de 1688-1689, puisque les Anglais ont chassé leur roi et qui voulait leur imposer beaucoup de choses, dont des choses sur le catholicisme, a pris la fuite et ils ont fait appel à un souverain venant de Hollande. Ils ont fait appel à un monarque venu de l'étranger. Ils ont mis en place le Parlement, ils ont mis en place le Bill of Rights, une déclaration sur les droits, première déclaration des droits. Donc la première révolution qui doit compter en Europe, c'est la révolution c'est la Révolution anglaise, et la seconde, qui vient avant aussi la Révolution française, on l'oublie toujours, dans les manuels d'histoire, on lui consacre presque rien, c'est la Révolution américaine. Deux révolutions qui sont fondatrices de la démocratie. Donc, très important pour comprendre le XVIIIe siècle, la philosophie de John Locke, c'est une philosophie de l'empirisme. L'empirisme, c'est une philosophie de l'expérience. La seule chose que l'on doit croire, c'est nos idées, et nos idées qui sont formées à partir de ce que nous expérimentons, de ce que nous voyons et de ce que nous pouvons vérifier. C'est une philosophie véritablement de l'expérience qu'on appellera l'empirisme. Avec un pendant, je dirais, dans la pensée politique, c'est que c'est une philosophie du contractualisme, c'est-à-dire les citoyens se réunissent, décident de former une société civile et de se gouverner eux-mêmes ou de confier le gouvernement à des représentants, ça peut être un parlement, ça peut être un monarque, peu importe, mais ce sont les citoyens qui décident de former une société politique. Et puis la seconde chose qui est extrêmement importante pour le XVIIIe siècle, quelque chose dont on n'a absolument plus aucune idée, nous, c'est qu'il y a les Principia Mathematica de Newton, qui sont de 1688 ou 1686, les Principia Mathematica. Principia Mathematica, philosophiae naturalis, les principes mathématiques de la philosophie naturelle. Alors là, je vous en dis quelques mots parce que l'idée qui a prédominé au XVIIIe siècle et une grande partie du XIXe siècle, jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'est qu'il y avait un domaine de la connaissance, la science physique et la science astronomique, la dynamique des corps, il y avait un domaine de la connaissance où on avait établi, je dirais, la connaissance définitive. C'est-à-dire que Newton, qui était un génie aussi puissant que Einstein, que Max Planck, etc., a réussi à faire la synthèse mathématique, je dirais, expliquant les lois de la physique et les mouvements astronomiques. Et c'est la grande réussite, c'est ces fameux Principia Mathematica, philosophie naturaliste, qui sont assortis en plus d'une théorie de la méthode, d'une théorie de l'observation, d'une théorie du raisonnement, et ce fut salué à la fin du XVIIe siècle comme, disons, le résultat majeur dans les connaissances du monde physique, et je dirais, le modèle de toute science qui pourrait être à venir. Et tout le XVIIIe siècle va essayer d'imiter Newton dans des tas d'autres domaines, dans le domaine par exemple des sciences, de la science de l'homme. Un philosophe que j'ai beaucoup étudié, David Hume, empiriste, prétend, lui, être le Newton de l'esprit humain, c'est-à-dire fonder les principes de la science de l'homme sur le modèle de Newton. Cette idée que, je veux dire, la physique est établie, il n'y a plus que des détails à remplir, elle va durer très longtemps. Elle va durer très longtemps, les méthodes mathématiques vont se perfectionner, mais pendant très longtemps, on va penser que ce qu'il faut, c'est au fond étendre le modèle newtonien à tous les autres domaines de la nature. Les choses commenceront à déraper au milieu du XIXe siècle, quand on s'apercevra que justement, on ne peut pas étendre le modèle newtonien à la théorie de l'électricité et à la théorie du magnétisme, et que c'est ce qui mènera à la fin du XIXe siècle à la découverte de la relativité. Mais pendant très longtemps, on a pensé qu'il y avait un modèle de science absolument unique, que ce modèle devait être suivi dans tous les autres domaines, et que, d'une certaine manière, si on le suivait, et si on arrivait à le mettre sur pied, eh bien, la connaissance serait achevée. Donc voilà les deux points de référence, si vous voulez, du XVIIIe siècle et des Lumières. Alors ensuite, je vous donne quelques dates et surtout quelques noms. J'ai fait des diapositives un peu trop grandes, mais bon, peu importe ce qui manque, je peux le rétablir. Je vous donne quelques dates parce que vous voyez, à travers ces dates, vous voyez très bien les générations. Donc le plus ancien, effectivement, les deux plus anciens, c'est pour la France, c'est Montesquieu et c'est Voltaire. 1689-1755 pour Montesquieu, 1694-1776, c'est pour Voltaire. J'ai mis un certain nombre de philosophes et de penseurs, de savants qui ne sont pas français pour bien vous faire comprendre que les Lumières, ce n'est pas un phénomène français. Hein. C'est un phénomène très important en France. C'est le phénomène de l'encyclopédie, le phénomène des Lumières françaises. Mais les Lumières, c'est une sorte de mouvement qui saisit toute l'Europe. Par exemple, moi j'ai beaucoup étudié les Lumières écossaises, l'Écosse, à partir des années 1730, jusqu'à la fin du 18e siècle, l'Écosse va être un foyer extrêmement riche de lumière, avec justement David Hume, né en 1711 ou en 1767, et surtout l'économiste Adam Smith, 1723-1790. Vous voyez, il faudra ajouter Adam Ferguson, par exemple, des tas d'autres penseurs, et énormément de penseurs des Lumières. Donc il y a des Lumières écossaises, il y a des Lumières françaises, il y a des Lumières en Italie. C'est un mouvement, et puis quand il n'y a pas de lumière locale, en quelque sorte, on importe. On importe, c'est-à-dire que c'est un monde où il y a beaucoup de circulation dans l'Europe du XVIIIe siècle, et donc, par exemple, Catherine II de Russie va faire venir Diderot. On fait circuler, les philosophes circulent pour venir prodiguer leurs conseils, aider à mettre en place des systèmes de gouvernement, aider à organiser des académies, etc. C'est un phénomène européen, et avec, alors je ne rentrerai pas dans le détail, il y a des différences locales, bien sûr, comme toujours, les Lumières écossaises, ce n'est pas tout à fait la même chose que les Lumières françaises, mais vous avez vous avez ce caractère très européen des Lumières. Alors, vous voyez les dates, donc Voltaire, Franklin, les Lumières américaines sont très importantes parce qu'elles vont se retrouver extrêmement actives lors de la Révolution américaine et de la fondation de la démocratie américaine. Donc, vous avez Franklin, vous avez David Hume, Lumière écossaise, et Jean-Jacques Rousseau. Hume a beaucoup vécu en France, hein, et il a été très ami avec Rousseau, puis ensuite ils se sont brouillés à mort dans les dernières années. Mais Jean-Jacques Rousseau, vous avez Diderot, bien sûr, Diderot et d'Alembert, les deux maîtres d'œuvre de l'encyclopédie. Vous avez en Écosse Adam Smith, le père de l'économie politique, le gros livre sur l'essai sur la richesse des nations. Vous avez aussi Kant, mais qui représente, disons, plutôt, je dirais, la fin des Lumières, et les Lumières allemandes, qui ont été plus ténues que les Lumières françaises. 1747-1765, c'est les 20 ans à peu près sur lesquels s'étend la réalisation de l'encyclopédie. Encyclopédie, c'est-à-dire ce dictionnaire encyclopédique des connaissances, réalisé collectivement sous la direction de Diderot et d'Alembert, et qui codifie à peu près, exprime la pensée des Lumières sur tous les sujets, que ce soit l'industrie, que ce soit les techniques, que ce soit les arts, que ce soit la politique, que ce soit la psychologie, etc. etc. Donc voilà les dates, si vous voulez, et en gros, vous voyez que compte tenu des âges de naissance, les Lumières, c'est un phénomène qu'on peut dire, je dirais 1730-1740, jusqu'à la Révolution française. La Révolution française pouvant être vue comme l'aboutissement du siècle des Lumières, mais pouvant être vue aussi comme l'extinction des Lumières, parce qu'il n'est pas certain que, dans l'idée des penseurs des Lumières, les Lumières devaient déboucher sur la terreur, par exemple, et encore moins qu'elles devaient déboucher sur l'impérialisme de Napoléon. Mais en gros, c'est, disons, 1730, 1780, 1790. Voilà l'époque des Lumières. Alors, comme tout mouvement, il y a des conditions. Tout mouvement d'idées, les idées, elles sortent de la tête des gens, mais il faut qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Alors, j'ai fait la liste de quelques-unes de ces conditions, et je vais vous en parler un peu plus. Bon, développement de la recherche scientifique à la suite de Newton. Donc développement des recherches mathématiques, des recherches aussi en physique, des recherches en chimie. Cela dit, ce qu'il faut bien voir, c'est que la seule branche qui est vraiment solide à l'époque, c'est la physique, et je dirais pas n'importe quelle physique. C'est la dynamique, c'est-à-dire la physique des mouvements des corps. Pour ce qui est d'aller à l'intérieur des corps, il n'y a rien du tout. Je veux dire, on n'est pas encore descendu à des petites échelles, on n'a pas de moyen de descendre à des petites échelles. Pour ce qui est de la chimie, elle est, je dirais, un des grands noms des Lumières, ce sera le français Lavoisier, grand chimiste, guillotiné sous la terreur, parce qu'en plus d'être chimiste, il était fermier général, c'est-à-dire qu'il était un collecteur d'impôts. Mais Lavoisier est un des pères de la chimie. Mais la chimie va mettre beaucoup de temps à apparaître, tout simplement parce qu'elle reste extrêmement proche encore de l'alchimie. Et des recherches un petit peu magiques sur les drogues, les poisons, les filtres et les ensorcellements. Hein. Donc la chimie. Développement de la recherche scientifique à la suite de Newton. Développement aussi, idée empiriste d'une science de la nature humaine. Alors ça, c'est un phénomène extrêmement important tout au long du XVIIIe siècle. C'est l'idée que on peut commencer à connaître l'homme. On peut commencer à connaître l'homme. Je ne parle pas de la connaissance médicale, mais on peut commencer à connaître les comportements des hommes, leur détermination psychologique, les déterminations qui tiennent à l'histoire, les déterminations qui tiennent au milieu social. Mais encore une fois, à l'époque, il n'y a pas de psychologie. Disons bien qu'il n'y a pas de psychologie. Le premier qui parlera vraiment de psychologie, ça sera, je dirais, plutôt Kant, à la fin du XVIIIe siècle. Il n'y a pas de psychologie. L'idée de la sociologie n'existe pas non plus. Hein, la sociologie, ça, le mot sera inventé par Auguste Comte, dans les années 1830 seulement. Il n'y a pas de sociologie. Il n'y a pas de psychologie, il n'y a pas encore d'économie politique, il n'y a pas encore de science économique. Elle est en train de se développer. Mais pour commencer, l'idée empiriste d'une science de la nature humaine, eh bien, elle va reposer sur l'observation. L'observation des mœurs, l'observation des usages, le début des statistiques. Le début de la statistique. Donc, on va commencer à compter. Alors, on commence à compter pour des raisons assez précises. C'est parce qu'on fait du commerce. Il y a des échanges commerciaux et les marchands, les gens qui font de la bourse, les gens qui prêtent et qui investissent, etc., sont intéressés à savoir, à connaître bien en détail les quantités. Et c'est le début des statistiques. Le tableau économique de la France, de Quesnay, physiocrate, qu'on peut mettre dans les lumières, ce tableau économique, c'est un tableau, je dirais, une esquisse de comptabilité nationale. C'est une esquisse de flux financiers, d'études des flux financiers internationaux. C'est extrêmement rudimentaire encore. Hein. On commence aussi à faire des statistiques sur la durée de la vie. Ça va donner naissance au premier système d'assurance et de mutuelle. Par exemple, c'est en Écosse. Il existe aujourd'hui toujours une fameuse banque qui s'appelle les Scottish Widows, un fonds d'investissement. Les Scottish Widows, les veuves écossaises, eh bien c'est en Écosse, à la fin du XVIIIe siècle, qu'on a mis sur pied les premiers systèmes d'assurance mutuelle. À la fois sur des bases chrétiennes, par solidarité envers le prochain, mais aussi sur des bases scientifiques, parce qu'on commençait à savoir traiter des statistiques, savoir avec quelle probabilité les gens allaient vivre, avec quelle probabilité ils allaient mourir, qu'est-ce que ça ferait peser comme charge, c'est le problème des retraites, hein, qu'est-ce que ça ferait peser comme charge sur les gens qui devaient être solidaires et qui cotisaient pour cela. C'est quelque chose qui apparaît dans les années 1760-1780, ça donne les veuves écossaises. Il y a eu aussi, encore une fois, j'essaie de vous faire comprendre que c'est un mouvement profondément rationnel, mais qui est toujours très mélangé avec des choses très peu rationnelles pour des raisons simples, c'est que les sciences telles que nous les connaissons dans le domaine des sciences humaines n'existent pas encore. Donc c'est très mélangé. Je vais vous donner un exemple sur le développement de la recherche scientifique, sur ces mélanges-là. N'en déduisez pas que c'est toujours comme ça. C'est que à la fin du XVIIIe siècle, en chimie justement, tout le monde fait des recherches pour essayer de découvrir l'oxygène. L'oxygène existe, mais l'identifier et l'isoler, tout le monde fait des recherches sur l'oxygène. Lavoisier, effet. Et en Angleterre, c'est le chimiste Priestley. Vous savez que c'est un peu toujours pareil. Hein. On a deux noms pour les lois en général, la loi de Boyle et la loi de Mariotte. Hein, c'est la même loi, mais en France, elle a été découverte, semble-t-il, par Mariotte, et en Angleterre, elle a été découverte sur la pression des gaz et les volumes. La loi de Boyle a été découverte par Boyle, en France elle a été découverte par Mariotte. Bon, les recherches sur l'oxygène se font en France autour de Lavoisier, avec Lavoisier, mais en Angleterre elle se fait avec Priestley. Mais Priestley, c'est à la fois un chimiste, mais en même temps c'est un théologien. Et Priestley s'intéresse, lui, il a fait des recherches de chimie, mais il a un gros problème, dont vous allez voir qu'il est très similaire à certains de nos problèmes d'écologie et d'environnement. Il est très croyant. Hein. Souvent, ces gens sont très croyants. Souvent, les gens sont totalement athées, hein, comme David Hume, ou comme Diderot, ou comme même Voltaire. Hein, comme Voltaire. Mais quelquefois, ils sont très croyants, il y a un très curieux mélange. Mais c'est un problème, c'est qu'il croit profondément dans les Écritures. Et donc, il sait que dans les Écritures, il est prévu qu'à la fin des temps, et la fin des temps pour eux, elle peut être très proche, à la fin des temps, il y a la résurrection des morts. Et il a une idée, c'est que depuis que la Terre existe et qu'il y a des hommes, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes qui sont apparus sur Terre. Donc qu'est-ce qui va se passer le jour où les morts vont être ressuscités, lors du jugement dernier, la résurrection des morts? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'atmosphère va être absolument méphitique. On ne va pas pouvoir respirer. Il va y avoir surpopulation, il y aura des milliards, des millions de gens sur Terre, et donc ça va être absolument une situation impossible. Et il est à la recherche d'un gaz régénérateur. Il cherche quelque chose qui pourrait permettre de purifier l'atmosphère, en quelque sorte, le jour de la résurrection des morts. Et c'est comme ça qu'il est mené à faire des travaux autour de l'oxygène, et qu'il découvre l'oxygène. L'oxygène, il le découvre d'abord comme un gaz qu'il appelle antiméphitique. Il faut dire aussi à l'époque, les problèmes d'hygiène et de pollution sont considérables, non pas parce qu'il y a de l'industrie, mais parce qu'on n'a aucune idée du traitement, par exemple, des ordures, des eaux usées dans les grains de vie, qui se développent beaucoup. Et donc, vous voyez ce mélange très curieux de spéculation religieuse, quelquefois, proche de l'illumination, et puis de spéculation rationnelle. Donc, développement de la recherche scientifique, y compris quelquefois sous des formes qui sont bizarres. Idée empirique d'une science de la nature humaine, c'est-à-dire et observer les gens, les coutumes, les peuples différents, faire de l'histoire, c'est au XVIIIe siècle que commence l'histoire, quand David Hume écrit une histoire d'Angleterre, Voltaire a écrit le siècle de Louis XIV, on commence les travaux historiques, en essayant de faire des travaux historiques, je dirais, de qualité, à partir d'archives, et non pas seulement à partir de ce qu'on imagine. Bon, bien évidemment, une troisième dimension sur laquelle on insiste plus, donc c'est pour ça que je n'ai pas commencé par ça, c'est l'analyse critique de la religion et ce qu'on appelle la théologie naturelle ou la théologie rationnelle. Alors, ce qu'on appelle la théologie naturelle ou la théologie rationnelle, c'est, je dirais, essayer de faire de tenir un discours sur Dieu qui ne soit pas offensant pour la raison. C'est-à-dire un discours où ce qu'on dira de Dieu sera en accord avec ce que l'on connaît, ce que la raison connaît et ce qu'elle nous permet de connaître de la nature. Donc on s'interroge sur la validité des preuves de l'existence de Dieu, on s'interroge sur le rapport entre Dieu et sa création, on s'interroge sur les propriétés qu'on peut donner à Dieu, etc., etc. Analyse critique de la religion et théologie naturelle. Je vais vous donner un exemple aussi, et là, il n'y a guère que moi qui puisse le donner, parce qu'il faut avoir passé aussi longtemps dans les lumières écossaises pour être tombé sur ce sur quoi je suis tombé. Il existe un théologien qui est aussi un scientifique écossais, qui s'appelle Craig, dans les années 1740-1750. Et ce Craig écrit un livre qui s'appelle, vous allez tout de suite comprendre ce que ça veut dire, les Principia Mathematica Theologiae Naturalis, les principes mathématiques de la théologie naturelle. C'est d'ailleurs, en fait, il se prend pour le Newton de la théologie. Quelquefois, les gens sont... ils peuvent être bizarres. Hein. Il écrit un livre comme s'il était le Newton de la théologie, donc il veut faire une théorie scientifique, mathématique de la théologie. Alors vous dites, diable, moi quand je suis tombé sur ce livre à la Bibliothèque nationale, je me suis dit, diable, qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Alors je lis ce truc et C'est tout l'esprit des Lumières qui est là-dedans. Craig part de l'idée que nous sommes sûrs que nous sommes encore sûrs que Dieu a eu un fils et que ce fils est venu sur terre, est mort pour nos péchés et ensuite ressuscité et monté au ciel. Bon, nous sommes encore sûrs. Pourquoi ? Parce que il y a eu des témoignages. Donc il y a les évangiles qui sont des témoignages. À l'époque, on n'est pas encore très au courant de toute la philologie testamentaire, mais on commence. Il y a eu des témoins, ils ont raconté quelque chose. Ensuite, il y a eu d'autres témoins qui ont recueilli leur témoignage. Puis d'autres témoins qui ont recueilli le témoignage des témoins, etc. etc. Mais, dit Craig, on sait très bien que quand quelqu'un a dit à un autre qu'il a vu une chose que l'autre rapporte, etc., le témoignage s'affaiblit. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, si vous voulez, c'est l'histoire de l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Hein, c'est-à-dire, bon, il y a un qui a vu l'ours, ça, il veut dire, il y avait l'ours. Hein. Ensuite, il dit, j'ai vu l'homme qui avait vu l'ours. Hein. Puis ensuite, j'ai vu l'homme qui avait vu l'homme qui avait vu l'ours. Et puis, j'ai vu l'homme qui avait vu l'homme qui avait vu l'homme qui avait vu l'ours. Etc. Donc, à la fin, problème de transmission du témoignage, on n'y croit plus. Et que fait Craig ? Il dit, au fond, maintenant, on est arrivé à un point où l'histoire du Christ n'est plus croyable. Il y a eu trop de témoins. Même s'ils ont été tous sincères, hein, peu importe, il y a eu trop de témoins, c'est trop loin. Le témoignage s'est perdu, c'est affaibli. Et donc, il en conclut, Principia Mathematica Théologie Naturaliste, d'abord, il fait un calcul sur l'affaiblissement du témoignage. Donc, en gros, depuis 17 siècles, c'est trop faible, le témoignage. Et donc, il en conclut mathématiquement que Dieu va revenir sur Terre. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'un second Messie vienne, et les Écritures disent, et que ça risque d'être la fin des temps. Hein? D'où les spéculations de Priestley. Hein? Ben, ça va être aussi la résurrection des morts. Hein? Et donc, il va y avoir des millions de cadavres qui vont sortir de terre, et ça va être méphitique. Vous voyez un petit peu le mélange de connaissances bien précises, de modèles scientifiques et de croyances. Donc, analyse critique de la religion et théologie naturelle. Je suis persuadé qu'il y avait des gens à Rome qui ne devaient absolument pas supporter ce genre de discours. Hein? Je veux dire que au XVIIIe siècle, on est arrivé à un point où on ne peut plus croire sur la base du témoignage à l'existence du Christ. Donc il faut qu'il revienne et puis il faut que ça soit l'Apocalypse. Bon. Investigation de la nature en général, ça c'est un point très important, c'est l'époque où on observe, on classe, on voyage, on fait des comptes rendus de voyage, on fonde des sociétés savantes pour classer tout ça. Alors, je vous donne un exemple, c'est parce que la notion de témoignage est très importante au XVIIIe siècle. Et entre parenthèses, c'est quelque chose qui devrait beaucoup nous réintéresser à nous aujourd'hui, si vous voulez, parce que, hein, avec les médias, le témoignage, il y en a beaucoup, et du témoignage non vérifié, il y en a beaucoup aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe au XVIIIe siècle ? Il y a de plus en plus de voyages, les voyages de Bougainville, les voyages de Cook, il y a tous les gens qui sillonnent le monde avec les bateaux, il y a beaucoup de voyages, et les gens rentrent en vous racontant des histoires pendables. Hein. Ils ont vu des sirènes, ils ont pêché un monstre, ils ont machin, etc. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Ben, par exemple, la société royale, la Royal Society, à Londres, elle rédige, à l'usage des capitaines de navires, des procès-verbaux types d'observation. Procès-verbaux types. En disant, voilà, si vous voyez une chose, voilà ce que vous devez faire. Vous devez d'abord donner l'heure, le temps, le témoin. Dans quel état il était, est-ce qu'il avait bu ou est-ce qu'il n'avait pas bu, hein, c'est un navire, est-ce qu'il était frais, pas frais, etc. Est-ce qu'il était illettré, pas illettré, etc. Vous devez donner tout ça. Ensuite, si vous avez pêché une sirène, vous la mesurez. Hein, ce n'est pas de me raconter que vous avez pêché une sirène. Et puis, vous en faites une description, et puis il donne des modèles de description. Et tout ça, si vous voulez, c'est la mise en place d'une méthodologie scientifique d'observation qui va déboucher sur les classifications naturelles. Classification de Linné, hein, la classification, les descriptions de Buffon, hein, les descriptions de Buffon dans l'histoire naturelle. C'est l'époque de l'investigation de la nature par l'observation, la description. Une chose que je vous signale, par exemple, vous y faites très attention, si un jour vous regardez, il y en a des versions sur Internet, donc vous pouvez regarder, l'encyclopédie, justement, de 1747-1765, l'encyclopédie comporte énormément de planches. Planches, par exemple, quand on vous montre les métiers de la, de la métallurgie. Vous avez des planches. Quand on vous montre les métiers du tissage ou de la teinture, vous avez des planches. Ces planches montrent en détail, et c'est un des aspects fondamentaux de l'encyclopédie, ces planches montrent en détail la nature des outils, des instruments, et la manière dont ils sont construits. Et ces planches, la plupart, je crois presque toutes, sont cotées. C'est-à-dire que vous pouvez, à partir de ces planches, vous pouvez fabriquer les choses. C'est des plans qu'on vous donne. C'est des planches cotées pour identifier toutes les techniques. Donc vous voyez, c'est la description, mais en même temps, la description avec un but scientifique et un but aussi de pouvoir refaire, reproduire ces objets et de pouvoir les manufacturer. Je veux dire, c'est en quelque sorte diffuser les plans de ces objets. Donc voilà, si vous voulez, les conditions intellectuelles de ces lumières. Et c'est un mouvement puissant, hein, encore une fois, c'est-à-dire que dans tous les pays se font des petites académies. Alors quelquefois, ce sont des académies ridicules. Hein, je veux dire, l'académie de la Côte d'Or, l'académie de Dijon, ben, c'est celle qui mettra au concours les origines de l'inégalité, pour lequel va concourir Rousseau et obtenir le prix de l'académie de Dijon. Mais vous avez plein de petites académies, plein de groupes de gens qui se plongent dans la connaissance, qui essayent de la faire avancer. Alors quelquefois c'est très amateur, quelquefois c'est très scientifique. C'est une atmosphère, quelquefois c'est à moitié loufoque, et les premières recherches sur l'électricité et le magnétisme, c'est un côté mondain, parisien, on essaye de se donner des petits chocs électriques et ça fait des frissons, etc. Mais c'est ça le milieu du XVIIIe siècle. Alors, maintenant les conditions sociales. Parce que les conditions intellectuelles, on en a parlé, les conditions sociales, eh bien, les échanges. Les échanges, c'est-à-dire que les gens soit circulent, soit discutent, soit correspondent, soit se réunissent. Les échanges. Vivre en échangeant. On ne, ça, c'est une vérité qui ne sera jamais démentie, c'est qu'il n'y a pas de recherche individuelle. Hein. La recherche individuelle, c'est une fiction. C'est toujours. Il y a des gens qui sont plus géniaux que d'autres, comme Newton, mais la recherche, c'est une affaire de travail collectif, d'interaction et d'échange entre les savants et les intellectuels. D'où aussi les circulations et les voyages. Alors, les circulations, par exemple, c'est le début des voyages en Italie. C'est le voyage des tours, ou des voyages sur le continent. Le premier à faire un voyage, enfin, ils sont plusieurs, mais le premier à faire un voyage sur le continent, c'était John Locke. John Locke qui est venu à Montpellier, qui a étudié la médecine à Montpellier au XVIIe siècle. Mais Hume a été un moment ambassadeur en Italie, il réside à Paris. Les gens circulent beaucoup. Diderot va voir Catherine de Russie. Les gens circulent beaucoup. Les grands les invitent, les académies invitent, les gens connus. Il y a toute une circulation et un vrai cosmopolitisme. C'est un cosmopolitisme européen. Mais il faut ajouter aussi les circulations de voyages lointains aussi. Ça, c'est des voyages lointains avec... on emmène un naturaliste, on emmène des observateurs quand on fait les voyages comme le voyage de Bougainville ou le voyage de Cook. Alors, circulation des idées, bien sûr, à travers les cafés. Les cafés commencent à se mettre en place et à se développer. C'est des endroits où les intellectuels, les scientifiques, les gens vont discuter. En Angleterre, ce n'est pas les cafés à proprement parler. Il y en a aussi, mais ça peut être les collèges des universités. En France, l'université reste beaucoup plus sous la coupe de l'Église catholique. Et donc, les cafés en plus avant. C'est le début des gazettes. Des gazettes, des journaux. Alors, journaux, je dis gazettes parce que ce n'est pas des journaux quotidiens. Hein, c'est des feuilles qui paraissent soit irrégulièrement, soit hebdomadairement, mensuellement, etc. Le début des journaux qui colportent les idées. Et puis aussi le phénomène des salons. Le phénomène des salons, c'est-à-dire... des hommes et des femmes du monde qui ont un salon où se réunissent les têtes bien faites, les écrivains à la mode, les savants, etc. Alors, il peut y avoir des choses extrêmement sérieuses, et encore une fois, ça peut, comme à la fin du XVIIIe siècle, avoir ces salons où on faisait des petites expériences d'électricité assez farfelues. Alors, conversation et discussion, ça c'est sûr aussi. Et puis alors, troisième point, dernier point qui est très important, c'est la naissance d'un espace public. L'espace public. Alors, on dit en général, les Lumières, c'est la naissance de l'espace public, de l'opinion publique, de l'espace public. Pas l'opinion publique au sens où on entend avec des sondages, et où se forme une opinion collective à partir de la discussion. Mais concrètement, c'est beaucoup plus intéressant concrètement. Parce que concrètement, l'espace public se traduit par l'existence et la fondation, le développement d'opéras, de salles d'opéra, peut-être des endroits où, jusqu'ici, très souvent, c'était des princes qui commandaient des opéras pour leurs cours, hein, pour le théâtre, le petit théâtre de Versailles, si vous voulez. Là, des opéras publics se montent, par exemple en Angleterre, en Allemagne, en Italie, bien sûr, des opéras publics se montent où les gens vont aller assister collectivement, comme public, à des opéras. Vous avez la naissance du concert, naissance de salles de concert. Au lieu que la musique soit une affaire privée qu'on commande chez soi quand on est riche ou qu'on commande pour les églises et les fêtes religieuses. Le salon de peinture, il y a des textes de Diderot qui s'appellent les salons, c'est-à-dire que l'Académie de peinture, l'Académie royale de peinture en France organise chaque année une exposition des œuvres qui ont été proposées par les candidats à la réception à l'Académie. C'est les salons, et puis où les maîtres exposent aussi leur production, les aspects importants de leur production. Et le public se presse pour aller voir l'état de la peinture, et quelqu'un comme Diderot commente tout ça, il n'est pas le seul d'ailleurs, quelqu'un comme Diderot commente, décrit les tableaux, les juge, les trouve meilleurs ou mauvais, etc. C'est la naissance d'une opinion publique, la naissance d'une critique et d'un espace public. Alors, quelques images. Par exemple, ça, c'est un tableau de Lemonnier qui était au musée des Beaux-Arts de Rouen. C'est le salon de Madame Geoffrin, qui était un des salons encyclopédistes les plus fameux. Je ne sais pas si vous voyez plus ou moins, mais vous voyez, c'est des gens qui se réunissent. C'est la bonne société, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on va échanger. Alors, ça va échanger depuis les banalités, des commérages, des médisances, jusqu'à échanger des informations, des connaissances, se mettre en relation, faire des réseaux aussi. Il y a tout un aspect réseau. Ça, c'est un dîner de philosophes. C'est un dîner de philosophes autour de Voltaire, qu'on reconnaît dans le fond à gauche. Dîner de philosophes, ça doit être quelque chose de vers 1740 ou 45. Les cafés. Alors ça, c'est D'Alembert, un petit dessin de D'Alembert au Café Procope, à Paris, rue Mazarine. Et ça, c'est le Café Procope aujourd'hui, puisqu'il a été restauré, qu'il existe, et que c'est une attraction touristique. Voilà, c'était juste quelqu'un. Alors maintenant, je vais lire... Je parlerai donc à peu près une heure, hein. Parce que j'en suis à 36 minutes, je parle à peu près une heure, compte tenu du moment où je suis. Alors, maintenant, je vais aborder quelques points sur les théoriques sur les Lumières. Sur le fond de toute cette description d'une situation. Alors, le sujet des Lumières, le ego cogito des Lumières, eh bien, le sujet des Lumières, alors là, chez tous les philosophes, hein, ils sont tous d'accord là-dessus, c'est le primat de la connaissance. Primat de la connaissance sur la croyance, primat de la connaissance sur la crédibilité, primat de la connaissance sur l'endoctrinement religieux, parce qu'à l'époque, il n'y a pas encore d'endoctrinement politique. La politique s'exerce à travers la répression, mais pas à travers l'endoctrinement, puisqu'il n'y a pas de médias, mais très peu de médias. Ouais. Donc, primat de la connaissance sous deux formes. Alors, l'expérience, revenir au témoignage des sens, au témoignage des témoins, aux enseignements de l'expérience, c'est le triomphe de l'empirisme. L'empirisme, c'est-à-dire observer, faire des expériences, et pas forcément faire des expériences au sens où nous l'entendons, faire des expériences scientifiques très compliquées, parce qu'à l'époque, on n'a pas encore les moyens. Faire des expériences, c'est faire des observations. Lire les récits de voyage, lire les descriptions, voyager, prendre des notes sur ce qu'on voit, l'expérience. Donc c'est le domaine de l'encyclopédie, la description des métiers, la description des techniques, la description des habitudes des gens, des croyances, etc. C'est les classifications naturelles, les classifications, le début de l'agronomie par exemple, les descriptions aussi sociale et culturelle. On considère que c'est justement un Écossais, Adam Ferguson, qui, dans son histoire de la société civile, est le premier anthropologue, en premier ethnologue. Qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il lit des histoires anciennes de l'Angleterre, et il lit aussi des récits de voyage sur la vie des sauvages, la vie des Indiens, etc. Et il essaye de mettre sur pied une première théorie des sociétés humaines, comment elles sont sorties de la barbarie, comment ensuite elles sont guettées par la décadence, etc. Montesquieu fait aussi un peu la même chose dans l'esprit des lois. L'esprit des lois, c'est aussi une vaste description de la diversité des lois, de la manière dont elles s'appliquent, des principes qui les font fonctionner, etc. etc. Donc c'est l'empirisme, ça mènera la poursuite de ça, ça sera au XIXe siècle, le positivisme. Le positivisme, il y aura un certain nombre de philosophes qui s'inspireront directement des Lumières, notamment en Angleterre. Le père d'un philosophe qui s'appelle John Stuart Mill, son père James Mill, était un homme du basculement, c'est un homme de la fin du XVIIIe siècle pour qui il y a les fêtes. Je veux dire, positivisme, c'est le positivisme. Je ne m'intéresse qu'aux faits, ce que vous croyez ne m'intéresse pas, vos intentions ne m'intéressent pas, ce qui m'intéresse, c'est ce que vous faites, ce que je vois, de ce qui est apparaît. L'expérience, et puis, deuxième aspect, la connaissance mathématique de la nature, avec, encore une fois, la nature physique, bientôt la chimie, et puis le début de la connaissance de la nature humaine, et ça va mener vers les sciences, en grande partie, le scientisme du XIXe siècle, et, je veux dire, aussi le scientisme dans les sciences humaines, c'est-à-dire le développement des sciences humaines. Bon, tout de suite, il y aura des correctifs, mais je n'en parle pas pour là. Alors ça, c'est le versant, je dirais, épistémologique, ce qu'on appelle en termes de théorie de la connaissance, c'est le versant épistémologique. Maintenant, en termes de politique, ça nous intéresse quand même beaucoup, et c'est souvent par ça qu'on commence, en parlant des Lumières, eh bien, il y a une définition de l'essence humaine, le droit naturel, qui va définir les droits imprescriptibles et universels de l'homme. Ça débouchera sur les déclarations des droits, la Constitution américaine, la Déclaration des droits de l'homme, les constitutions révolutionnaires françaises, les déclarations des droits de l'homme. Donc, essayer d'analyser qu'est-ce que c'est que l'homme, quelles sont ses propriétés fondamentales, si vous voulez, essentielles, et à partir de là, essayer de déterminer quels sont les droits et les devoirs de cet individu. Alors, ça commence au départ. Au départ, ça commence sous une forme religieuse. Parce qu'encore une fois, comprenez bien que c'est très difficile au XVIIIe siècle d'être athée. C'est très difficile d'être athée. C'est que petit à petit, les gens vont admettre et reconnaître l'athéisme. Mais même quand les gens sont plutôt athées, ils ne le disent pas et ils essayent de rester dans un discours, je dirais, qu'ils soient au moins compatibles avec la religion. Il y a une anecdote d'un dîner de philosophes, justement, à Paris, avec David Hume, et un des convives dit on ne peut pas trouver un véritable athéiste. À l'époque, on ne dit pas un athée, on dit un athéiste. On ne peut pas trouver un véritable athéiste. Et David Hume se tourne vers lui en lui disant, mais écoutez, mon cher ami, nous sommes 12 ici, et il y en a au moins 11 qui sont athéistes. Vous voyez. Mais Hume ne l'a jamais dit. Il a écrit des dialogues sur la religion naturelle qui sont d'une subtilité absolument incroyable, mais où il ne dit jamais qu'il est athée. Il utilise plusieurs personnages qui argumentent dans tous les sens, et on ne sait pas quel est le personnage qui a sa préférence. Il y en a un qui visiblement est plus athée que les autres, mais Hume ne dit jamais à aucun moment que ce personnage le représente lui. Hume a écrit un fameux essai sur les miracles. Un essai sur les miracles, qui est une merveille d'humour, parce que dans ce essai sur les miracles, il conclut ce serait un miracle qu'il y ait eu des miracles. Mais c'est la raison pour laquelle il faut croire qu'il y a eu des miracles. Autrement dit, il se paye la tête du monde, mais je veux dire, pour quelqu'un, c'est un miracle qu'il y ait des miracles. Parce que les lois de la nature sont ainsi faites qu'elles ne souffrent pas d'exception. Donc s'il y a eu des miracles, c'est un miracle de Dieu. Et nous devons croire tout ce que Dieu nous a enseigné. C'est totalement ironique. Mais vous voyez, au départ, l'inspiration reste toujours dans un cadre religieux. Et on essaye de déterminer, finalement, les droits de l'homme à partir de la place de l'homme dans le système de la création divine. c'est une place éminente, donc l'homme est la créature principale de la création, mais Dieu lui a donné liberté, autonomie, responsabilité, donc on n'a pas le droit d'enfreindre la liberté de l'homme, on n'a pas le droit de lui enlever sa responsabilité. Vous voyez que petit à petit, à travers ce discours, on va construire toute une théorie des droits de l'homme, mais dans le cadre de la création divine. Bon, par exemple, Dieu nous a donné une raison, c'est pour que nous nous en servions. Donc, c'est un droit de l'homme imprescriptible d'avoir une liberté d'opinion. Et bien évidemment, nous devons croire à l'Évangile. Vous voyez, tout le système est construit comme ça au départ. C'est un système de droit naturel qui s'inscrit dans un cadre religieux, mais qui tire du cadre religieux tout ce qui permet de déduire une théorie des droits de l'homme. Mais petit à petit, ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure qu'on croit moins dans la religion, il reste la théorie des droits de l'homme, le droit naturel, et le cadre religieux disparaît. Et je dirais que, par exemple, si un jour vous étudiez en détail la philosophie de Kant, vous verrez que la philosophie de Kant, c'est fondamentalement une philosophie parlant de l'essence de l'homme, la nature humaine, les droits de l'homme et les devoirs de l'homme, mais qu'on n'a pas besoin de faire appel à Dieu pour faire fonctionner tout cet édifice. Cela dit, Kant reste extrêmement pieux, extrêmement religieux, et considère que la religion doit être suivie, il écrit un opuscule qui s'appelle « La religion dans les limites de la raison ». Et donc, il enlève tout ce qui n'est pas rationnel dans la religion. Hein, par exemple, il y aura plein de livres à la fin du XVIIIe siècle sur Jésus-Christ, en disant « Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu ». Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut croire dans toute cette histoire? Est-ce qu'on peut croire ces miracles? Est-ce qu'on peut croire le récit de sa vie? Est-ce qu'on peut croire tout ça? Et donc, est-ce que c'était un dieu ou est-ce que c'était un homme exceptionnel? Vous voyez comment ça se met à fonctionner. La religion passe elle aussi au crible de l'analyse critique, pas forcément pour des raisons d'athéisme, mais petit à petit, il ne reste plus que les droits de l'homme, les droits de cet individu, indépendamment de l'existence de Dieu. Alors, c'est là que j'en viens au problème qui, parce que les Lumières posent un certain nombre de problèmes, c'est ou bien cet homme que finalement on isole, ou bien il reste un individu isolé, totalement libre, autonome, etc., mais sans contexte, sans environnement en quelque sorte. Peu importe la société dans laquelle il est, puisqu'il choisit la société dans laquelle il veut entrer, peu importe sa classe sociale, c'est un pur esprit, etc. Ça va mener à l'individualisme. Il y a un individualisme radical. Et je crois que le meilleur exemple de l'individualisme radical, c'est un exemple extrêmement pervers, c'est dans la littérature de Sade, du marquis de Sade. L'individu sadien, c'est le maître du monde, le maître de soi, le maître... l'esclave de ses passions, soumettant les autres à ses passions, sadique, hein, mais il y a l'aboutissement de l'hyper-individualisme, c'est cela. Ou alors, deuxième hypothèse, si on laisse de côté, si on se méfie de cet individualisme forcené, on va essayer de trouver de nouveaux ancrages. Et c'est pas difficile de trouver de nouveaux ancrages, tout simplement parce que... au même moment, on étudie la société. Au même moment, on étudie les usages, les coutumes, les croyances, etc. Et on s'aperçoit qu'effectivement, le sujet des Lumières, eh bien, il est inscrit dans la nature, la nature humaine, passionnelle. Il est inscrit dans une société bien précise. Il est écossais, il est anglais, il est allemand, il est italien, etc. On voit apparaître la notion de race. C'est le début... De l'analyse des races humaines, parce qu'on constate qu'effectivement il y a des Indiens, il y a des sauvages, il y a des peuplades différentes des nôtres, il y a des Chinois, etc. C'est le début. Mais il fait partie d'un peuple, et ça c'est une des choses un peu problématiques de la fin du XVIIIe siècle, c'est qu'on voit arriver le nationalisme. Hein, le XVIIIe siècle va se terminer dans les guerres révolutionnaires, dans les premières guerres nationales, dans la préfiguration des premières guerres de nationalistes de l'époque. C'est-à-dire que le paradoxe de la Révolution française, c'est qu'elle va réunir l'universalisme des droits de l'homme, mais en même temps, sous la forme de la conscription de masse, c'est-à-dire sous la forme de la guerre populaire, c'est-à-dire de la guerre nationale et des armées nationales contre les autres. Donc, c'est ce qu'on voit apparaître, c'est l'alternative entre l'individualisme ou les communautés. L'individualisme et les communautés. Et quelles sont nos communautés? Eh bien, c'est une des points de réflexion du XVIIIe siècle. Alors, du coup, les Lumières, on peut dire, c'est une théorie de l'universalisme et de l'individualisme. C'est-à-dire l'individu, mais qui est universel parce qu'il a une raison, parce qu'il a une volonté, parce qu'il est autonome. Hein, c'est un être raisonnable, vous voyez, doué de volonté, qui doit être autonome. Ça, c'est la pure philosophie de Kant. C'est la pure philosophie de Rousseau aussi, encore que Rousseau rajoute les passions. C'est un être raisonnable, doué de volonté, et qui doit être autonome. Le problème, c'est que ce qu'on oublie au passage, quand on a une telle conception universaliste de l'individu, une très belle conception, c'est qu'on oublie l'irrationalité, les passions, la dépendance, y compris la dépendance économique. Et donc, la philosophie du XVIIIe siècle, la philosophie des Lumières, c'est profondément une philosophie qui oublie complètement, laisse de côté, n'a aucun souci des masses populaires. C'est une philosophie élitiste. C'est la philosophie des citoyens éclairés. Et les théories de la démocratie commencent par des théories fondamentalement élitistes. C'est pour ça que dès la Révolution, il n'y a pas de suffrage universel. Hein, c'est-à-dire qu'il faut avoir des conditions d'âge, des conditions de revenus, des conditions d'éducation, et ça va durer pendant tout le XIXe siècle. Le XIXe siècle, ça va être l'histoire de la conquête progressive du droit de vote et de l'extension du suffrage universel petit à petit. Jusqu'aux femmes. Hein, et jusqu'aux femmes, dans la plupart des pays, ça attendra même le XXe siècle. Donc vous voyez que c'est des... Alors pourquoi, par exemple, pourquoi les femmes ne seraient pas des sujets politiques? Tout simplement parce qu'elles dépendent, soit elles dépendent de leur mari, soit ce sont des gourgandines. Voilà. Donc c'est vidu pour la philosophie du XVIIIe siècle. Elles peuvent pas, donc elles ne peuvent pas être des citoyens autonomes et éclairés. De la même manière... les gens trop pauvres, ils ne peuvent pas être des citoyens éclairés. Pourquoi? Parce que d'une part, ils sont ignorants, un citoyen doit être éclairé, et que d'autre part, comme ils sont pauvres, ils dépendent de ceux qui les entretiennent en leur payant des salaires, ou qui les entretiennent en leur faisant la charité. Donc ils sont achetables. Et chez Kant, à la fin de la théorie politique, dans la théorie politique de Kant, il y a des choses extraordinairement intéressantes, parce que je dirais qu'il ne faut pas le condamner trop vite, parce qu'il voit bien le problème. C'est le problème de nos démocraties, d'ailleurs, aujourd'hui. C'est qu'il détermine une distinction entre ce qu'il appelle citoyen actif et citoyen passif. Il nous dit, pour être citoyen, au sens des Lumières, sous-entendu, pour être citoyen, il faut être rationnel et il faut être autonome. Libre, rationnel, libre et autonome. Ceux qui sont des êtres humains, mais qui ne sont pas libre ni autonome. Par exemple, ceux qui dépendent, les serviteurs, hein, ceux qui sont les soldats, les très pauvres, eh bien, ils ne peuvent pas être des citoyens au sens plein du terme. Donc, ils seront seulement des citoyens passifs. Ils auront les droits du citoyen, mais ils n'auront pas le droit de faire les lois. En revanche, pour faire les lois, il faut être autonome, libre, rationnel et donc citoyen actif. Il distingue des citoyens actifs et des citoyens passifs dans sa République. Les citoyens actifs étant ceux qui ont le droit de vote et le droit de participer à l'élaboration des lois. Les citoyens passifs étant ceux qui disons, bénéficient des droits de l'homme et des protections des droits, mais qui n'ont pas le droit de produire les lois. Il y a un oubli de la part d'irrationalité, de dépendance, etc. Complet. Ça va durer très longtemps. C'est une anecdote, mais je lisais là, il y a une quinzaine de jours des essais de Simone de Beauvoir, et je tombe sur une note de Simone de Beauvoir. Ça m'a vraiment intéressé parce que ce texte de Balzac, je ne m'en souviens pas, mais Balzac, dans sa physiologie du mariage, à un moment fait, vous savez, à la manière de Balzac, fait ces grandes descriptions un peu emphatique et un petit peu pompeuse, qui en même temps comporte des remarques sociologiques. Donc c'est dans les années 1830, hein, tout ça. Et Balzac dit, c'était une femme, à propos d'un de ses personnages, c'était une femme. Non pas une de ces femmes comme il y en a 12 ou 13 millions en France actuellement, parce que de ces 12 ou 13 millions, il faut tout de suite en retrancher 10 millions qui ne sont que des employés, qui ne sont que des pauvres, qui ne peuvent pas avoir... C'était une femme, c'est-à-dire c'est une femme qui avait le teint clair, qui était belle, qui était riche, qui avait... C'est ce mépris total des couches populaires, elles n'existent pas. Elles n'existent pas. Mais le XVIIIe siècle, il est pareil. Hein. John Locke, qui était un homme éminemment religieux, qui était un homme éminemment charitable, qui était quelqu'un de bien, quand on le lit. John Locke, il est le premier théoricien de la démocratie. Toutes ses idées vont servir à fonder la démocratie américaine, mais par exemple, il exclut de la communauté politique ceux qu'il appelle qui vivent de la main à la bouche. C'est-à-dire ceux qui vivent au jour le jour. On ne peut pas être un citoyen si on n'est pas un propriétaire. Pourquoi ? Parce que quand on vit de la main à la bouche, on est susceptible d'être acheté par n'importe qui. On est susceptible d'être influencé par n'importe qui. Pour qu'un citoyen soit vraiment autonome, il faut qu'il ait l'autonomie de la propriété. Il faut qu'il soit propriétaire, il faut qu'il ait un domaine qui lui permette de voir venir et de réfléchir. Vous voyez un petit peu ? Bien, tous les gens sont comme ça. Hein ? Alors, ne parlons pas des Noirs. Savent pas trop si c'est des hommes, pas des hommes, etc. Hein, je veux dire, il y a un racisme très profond dans toute la pensée, et pas des Lumières, hein, toute la pensée jusqu'au 19e siècle, c'est des sauvages. Hein, je veux dire, la question de l'esclavage pose, le commerce des esclaves, la traite, on a dit que Voltaire avait des intérêts, que Montesquieu avait des intérêts dans la traite des Noirs, etc. C'est pas impossible, c'est pas forcément, c'est pas certain, mais c'est pas impossible, parce que, encore une fois, l'humanité se réduit à l'humanité raisonnable, rationnelle, volontaire, autonome, européenne. Hein, voilà, fondamentalement, c'est ça. Donc on oublie les masses populaires, on oublie les masses sans éducation, on oublie les masses sans revenus. Et puis, je vais m'acheminer vers la fin. Il y a un problème, c'est que c'est bien joli d'être rationnel, mais il y a les passions, il y a l'affectivité. Or, le XVIIIe siècle, c'est aussi la période de l'affectivité, des passions, des romans romanesques, des déchirements passionnels. Ça va se terminer avec Mozart et les opéras on ne peut plus passionnels de Mozart. Il y a quand même, il y a des passions. Alors qu'est-ce qu'on fait des passions dans cette philosophie des Lumières ? Mais je dirais que là encore, on a deux stratégies très différentes. D'abord, sur un point, on a, mais ça dure depuis le XVIe siècle, hein, ça dure depuis le XVIe siècle, on est dans une période de civilisation. C'est une période où on essaye de civiliser les gens en les rendant polis, en leur apprenant les manières, la conversation, les arts, etc. On forme les gens. Hein. On passe d'une société où les gens ramassent dans le plat avec leur couteau à une société où les gens commencent à avoir des manières de table et à manger dans leur propre assiette avec des couverts. Hein, je veux dire, parce qu'avant, c'est rude. Hein, même encore sous Louis XIII, hein, c'est des manières de table d'une brutalité inouïe. Hein, je veux dire, les gens crachent à table, les gens se bouchent dans leur, par terre. Je veux dire, c'est épouvantable. Donc c'est ce qu'on appelle le mouvement de la civilisation des mœurs. Hein, on passe de gens qui étaient des brutes, hein, petit à petit, on passe des brutes de la Renaissance et médiévale. On passe de brutes à des gens qui sont de plus en plus civilisés. Ça, c'est l'aspect général de contrôle des passions, apprentissage de la politesse, des manières, à travers la littérature, à travers les arts, à travers la musique, à travers l'éducation, bien sûr, il y a tout ça. Mais disons que du point de vue de l'attitude théorique, il va y avoir deux options. Il y a ceux qui, comme Locke et de Locke à Kant, disent la raison est faite pour contrôler les passions. La raison est faite pour contrôler les passions. Et donc, il faut éduquer les gens. Il faut éduquer les gens à bien se tenir, à se contrôler, à refuser en eux tout ce qui est passionnel. Si vous lisez la théorie morale de Kant, c'est une théorie où tout ce qui est bien des passions est refusé et est appelé pathologique. Pathologique, pas au sens de la folie, mais pathologique, c'est le pathos. Voilà. La première attitude, c'est le contrôle des passions. La négation, hein, la négation des passions, mais disons que c'est peu commun. Le rigorisme, qu'on appelle le rigorisme kantien, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel du XVIIIe. Sinon, il y a plutôt une tendance, dans le cadre de la science de la nature humaine, à vouloir reconnaître le rôle des passions, Ça, c'est chez David Hume, c'est chez Rousseau, chez Diderot, n'en parlons pas. Et donc, de voir à quoi servent les passions dans le comportement humain. Par exemple, Hume a une phrase très belle en disant que la raison est une passion faible. C'est-à-dire que l'homme est un être fondamentalement passionnel et qu'il a malheureusement des passions qui sont beaucoup plus fortes que la raison. Parce que la raison, c'est une passion, mais ce n'est pas une passion bien forte, c'est une passion faible. Donc quand il y a un conflit entre la raison et les passions, eh bien, c'est la passion la plus forte qui l'emporte et c'est jamais la passion faible. Donc il faut imaginer des systèmes extrêmement compliqués pour que les passions faibles puissent petit à petit prévaloir. Mais c'est toujours très, très difficile. Rousseau, par exemple, Rousseau nous dit il veut que sa communauté politique, il veut que la communauté politique soit petite, de manière, et puis qu'il n'y ait pas de parti politique, parce que les partis politiques, c'est de construire des lobbies de gens qui agissent pour leurs intérêts. Hein. Donc il faut que les hommes à l'Assemblée, ils viennent avec uniquement leur volonté, et leur volonté qui va se transformer en volonté générale. Ils vont vouloir ce qui est valable pour tous. En oubliant leurs petits calculs, leurs intérêts. Mais en même temps, Rousseau est l'écrivain qui décrit les élans passionnels de la Nouvelle Héloïse, l'amour des dans les communautés, toute la dépendance affective. C'est un des grands écrivains des affections et des passions. Donc on a au XVIIIe siècle tout le temps un couple passion-raison qui se déséquilibre. Un couple passion-raison qui se déséquilibre, c'est-à-dire que c'est la raison qui doit prévaloir, mais les passions sont très fortes et parfois les passions prévalent. Et c'est pour ça, bon, ma diapositive est un peu trop grande, mais c'est pour ça que au sein des Lumières, il y a ce qu'on appelle les anti-Lumières. Et c'est au sein des Lumières. C'est-à-dire que vous avez des penseurs dont vous ne savez pas, dont il est très difficile de savoir s'ils sont vraiment des penseurs progressistes des Lumières ou des penseurs réactionnaires des anti-Lumières. Je prends un exemple, c'est un disciple, lui il est caractéristiquement réactionnaire, mais un des disciples les plus immédiats de David Hume, c'est Burke, le spécialiste d'esthétique et de théorie politique, Burke, qui est un ultra-conservateur. Pourquoi ? Parce que lui va jusqu'au bout de l'analyse des passions de Hume, et il nous dit au fond la raison ne peut jamais prévaloir. Donc, qu'est-ce qui prévaut dans les communautés politiques ? C'est les passions, c'est les habitudes, c'est les traditions, c'est tout ce qui fait le conservatisme foncier des sociétés, et donc, il est un théoricien totalement conservateur de la politique. Donc, vous voyez comment ça peut se basculer d'un rien, ça peut basculer d'un rien parce qu'il y a une sorte de couple maléfique de la raison et des passions à l'intérieur de la pensée de la société des Lumières. Et puis, je conclue sur une dernière chose. On en a parlé un petit peu, les Lumières, c'est la mise en place d'un espace public. C'est la mise en place d'un espace public. Alors il y a un mot qui est fondamental au XVIIIe siècle, sur lequel un très grand économiste américain a écrit des très beaux livres, Ben Hirschman, c'est le commerce. Ce commerce au XVIIIe siècle, ça veut tout dire. Et ça en dit beaucoup sur le commerce au XVIIIe siècle, c'est l'échange des denrées. Hein, le commerce. Mais le commerce, c'est aussi le commerce de la conversation. Quand vous conversez, vous commercez. Et d'ailleurs, il y a des revues, encore, il n'y a pas si longtemps, il y avait des revues qui s'appelaient encore Le Nouveau Commerce. Hein, il y a eu des livres, des revues au XVIIIe siècle qui s'appelaient Le Commerce des Lettrés. C'était pas du tout que les gens vendaient, c'était pas des eBay, hein, pas que les gens vendaient, c'était simplement qu'ils échangeaient des idées. C'était le commerce des idées. Et puis, il y a une autre forme de commerce au XVIIIe siècle, dans la littérature romanesque et dans la littérature érotique, c'est le doux commerce. C'est-à-dire, c'est le commerce des corps, le commerce des plaisirs. Donc, vous savez, le mot commerce au XVIIIe siècle, c'est un mot fondamental. Ça veut dire aussi bien les denrées que les paroles, les idées, que les corps. Hein, et ça, c'est fondamentalement l'idée de l'échange du XVIIIe siècle. Alors, encore une fois, j'y reviens, je vous ai montré des images, mais il ne faut jamais minimiser l'importance des cafés, des clubs qu'on va voir intervenir, qui sont là sous la Révolution française, des sociétés savantes, des sociétés artistiques, des académies régionales. C'est un siècle où les gens se réunissent continuellement pour mener des projets en commun. Les communautés de raisonnement et d'engagement, hein, les communautés affectives, Rousseau, la nouvelle Héloïse, Clarins, on est bien ensemble, on vit ensemble, on communie ensemble. Et puis, malheureusement, derrière, ce qu'on voit apparaître, et c'est un des acquis du XVIIIe siècle aussi, c'est caché sur ma diapositive, c'est les communautés nationales. Les communautés nationales. C'est-à-dire, curieusement, c'est à la fin du XVIIIe siècle qu'on va voir arriver la notion de peuple, la notion de sol, hein, dans quoi on est ancré, hein, dans un peuple, dans un sol, et on va basculer à ce moment-là, on va basculer dans le XVIIIe siècle, dans le XIXe siècle, c'est-à-dire dans une époque qui garde certains traits des Lumières, mais qui en même temps ajoute les identités nationales, les constructions nationalistes. Donc on pourrait dire que le XIXe siècle, ça va être, c'est un raccourci un peu exagéré, mais ça va être le siècle de la science, de l'industrie et des identités nationales. Voilà, merci.